que la Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
Il est immunologiste, professeur et chercheur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal, professeur associé au département de médecine de l'Université McGill et membre du groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19. Alors ce matin, c'est dans la section opinion de la presse. Il co-signe justement cette lettre de plusieurs spécialistes. C'est en lien avec les tests de dépistage rapide antigénique. Comme de quoi qu'il faudrait les utiliser. On va essayer de bien comprendre. Bonjour, Dr Veillette.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, ça va très bien. ça brasse, mais c'est correct, hein, on est réactif. C'est le bonheur de faire de la radio. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Puis on essaie d'avoir les meilleurs spécialistes et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Dr Veillette, expliquez-nous, là, les tests de dépistage rapide antigénique, qu'est-ce que c'est et pourquoi actuellement on ne les utilise pas?
Écoutez, il y a les tests que je pense que tout le monde connaît, là, c'est quand ils vont, par exemple, dans une clinique là, pour se faire tester. Ça, c'est des tests de PCR qui essaient de détecter l'ARN du virus. Mm-hmm. On sait aussi que le virus va produire certaines protéines. Hein? Une, c'est la spicule, par exemple, qu'on utilise pour faire les vaccins. Alors, il y a aussi l'autre façon qu'on peut détecter le virus, c'est en essayant de détecter les protéines ou les antigènes, comme la spicule, que le virus produit. Alors, c'est là où on a ces tests rapides antigéniques qui sont des espèces de tests de grossesse, mais c'est des tests de grossesse pour le virus, qui détectent donc un antigène produit par le virus.
D'accord. Donc, pourquoi ici, on ne les utilise pas alors qu'à travers le monde, il y a des pays qu'on les utilise, ça fait, visiblement, c'est fiable et c'est efficace. Pourquoi on a fait ce choix-là ici?
Bien, écoutez, le test est beaucoup plus facile, évidemment, que le test de PCR. Hein?
Okay.
Hein? Alors, donc, le test de PCR, ça prend une machine, faut faire ça en centre de test, là, ça, c'est clair. Alors, l'avantage des tests rapides, c'est qu'ils peuvent être faits rapides, puis ils peuvent même être faits à la maison. Alors, au début, les gens étaient, les premiers tests qui ont été créés n'étaient pas très, très sensibles. Les gouvernements au Canada, dans les provinces, surtout, s'y opposaient. Mais là, les tests sont de plus en plus sensibles. Mm-hmm. On sait qu'ils peuvent détecter comme 70 à 90 des cas positifs. Alors, l'idée, ça serait de responsabiliser les gens, et puis que ce soit en entreprise ou même à la maison ou dans les écoles, de sorte qu'ils puissent se tester eux-mêmes puis ils puissent voir s'ils ont le virus ou non. Ça ne serait pas des gens symptomatiques parce qu'on sait que le virus, souvent, il va être chez les gens, mais les gens sont asymptomatiques. Alors, l'idée, ça serait de permettre aux gens de faire leur test de la même façon qu'ils prennent leur café le matin. Ben, ils font un test une couple de fois par semaine puis ils se testent voir s'ils ont le virus ou non. Si c'est négatif, bon, ils continuent à faire attention. C'est sûr qu'il faut qu'ils se fassent vacciner, qu'ils portent un masque, ils doivent porter un masque. Mais si c'est positif, à ce moment-là, ben, ils font attention, ils vont pas travailler, puis ils vont se faire faire le vrai test au centre de test là, par le PCR.
OK, mais Dr Veillette, quand on dit que les tests ne sont pas appropriés pour le diagnostic de la maladie, un peu comme vous venez de nous l'expliquer, et qu'on précise que c'est surtout pour dépister les super propagateurs, qui sont les super propagateurs?
Les super propagateurs, là, c'est les gens qui ont des très, très, très grandes concentrations de virus dans leur voie aérienne supérieure, le nez, la gorge, peut-être même dans les poumons, et qui sont très souvent asymptomatiques. Ils s'en rendent pas compte, donc. Puis, je sais pas si c'est parce qu'ils parlent fort ou ils parlent beaucoup ou ils peuvent libérer des quantités phénoménales de virus qui vont finalement se propager puis infecter plein de monde. C'est un peu ce qui s'était passé à la Maison-Blanche. Je sais pas si vous vous souvenez, avec Trump, où il y avait eu un événement comme ça. C'est probablement ce qui s'est passé dans le gym à Québec. Où il y avait quelqu'un, où ça prend pas beaucoup de gens. Hein. Il y a des gens qui ont des quantités incroyables de virus, puis ils donnent le virus à plein de monde autour d'eux.
OK. Dr Veillette, on donne l'exemple dans l'article ce matin dans la presse de l'Angleterre. Le gouvernement là-bas a distribué gratuitement à la population les tests rapides antigéniques et on a demandé aux gens de s'auto-tester deux fois par semaine, évidemment accompagné de la vaccination. Et bon, la population, on le dit, ben, à ce moment-là, les gens se responsabilisent et s'auto-testent. Est-ce qu'on a déjà les résultats? Est-ce qu'il y a moins d'éclosions depuis qu'on agit comme ça? Est-ce qu'on a des résultats par rapport à ça?
Ben écoutez, il y a plusieurs choses qu'ils font en même temps. Évidemment, ils ont vacciné très rapidement la population avec tous les vaccins qui étaient disponibles. Ils donnent maintenant plus rapidement possible les deuxièmes doses. Alors, je pense qu'ils accélèrent ça. Ils réalisent l'importance de donner les deuxièmes doses. Initialement, c'était à 12 semaines. Maintenant, c'est à 8 semaines pour les 50 ans et plus. Et puis, évidemment, il y avait des mesures de confinement qui étaient très particulières, qui étaient très rigoureuses, beaucoup plus rigoureuses qu'ici. Mmh. Mais en plus de ça, ils font, depuis, je pense, un mois et demi, ils donnent les tests rapides à la population puis ils demandent aux gens de se tester. Alors, est-ce que ça marche ou non? Je ne sais pas.
Okay.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que le collectif de toutes les mesures qu'ils ont prises semble bien fonctionner parce qu'ils sont allés de plein de cas à pratiquement très, très peu de cas présentement. Évidemment, ils ont peur du variant indien qui arrive. C'est pour ça qu'il accélère la vaccination. Mais il n'y a pas d'évidence que ça crée du trouble.
D'accord.
Alors, c'est un peu un problème, c'est qu'on attend des données scientifiques pour voir si c'est une bonne idée de le faire, mais je pense qu'on a besoin de prendre la décision avant que les données scientifiques soient claires, parce que on va vivre avec ce virus-là pendant très longtemps.
Oui.
Donc, il faut apprendre donc à vivre avec, il faut apprendre à le détecter. Puis une des façons de le détecter, c'est que les gens, je pense, vont avoir besoin pour un bon bout de temps. Ceux qui veulent le faire, évidemment, tu ne peux pas forcer les gens à le faire s'ils ne veulent pas le faire, mais les gens à s'auto-tester.
Okay.
Et puis, c'est une des façons avec lesquelles on va pouvoir tolérer le virus. Il va être là pendant un bout de temps. Alors,
ça veut dire quoi, Dr. Veillette?
La
quand vous nous dites un bout de temps très longtemps, ça veut dire à peu près combien? C'est une question de d'années qu'on risque de vivre avec ce virus-là, selon vous?
Ah, ce virus-là pourrait être là indéfiniment. Puis, bon, les gens vont avoir été vaccinés, les gens vont avoir été immunisés, ils vont peut-être être infectés une fois de temps en temps, puis le virus va continuer à circuler. Ça pourrait être comme ça. Moi, je pense que c'est le scénario le plus plausible.
Ah oui.
Ça se peut aussi que le virus disparaisse tout d'un coup, hein? Mais bon, ça me surprendrait.
Ah oui.
Alors la question, c'est combien de temps ça va durer, toute cette espèce d'état de semi-crise ou de crise dans lequel on doit faire des confinements et tout. Ça va probablement pas être indéfiniment. Alors,
non,
c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un équilibre entre le virus puis la vaccination. Puis je pense que pour les premières années, possiblement, là j'invente un chiffre, là, premières années, on a besoin d'outils additionnels. Je pense que d'instruire la population à comment utiliser ces tests rapides-là qui sont disponibles, je pense que ça pourrait être un outil important pour nous aider.
OK. Dites-moi, Dr. Veillette, jusqu'à maintenant ou récemment, est-ce que vous sentez plus d'ouverture de la part de la santé publique? Est-ce que vous sentez qu'on s'en va là, qu'on va le proposer éventuellement?
Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Ils vont réaliser que c'est un outil important. Un des arguments qu'ils utilisent, là, c'est que les gens ne sont pas capables de le faire. Alors, de dire que les gens ne sont pas capables de le faire, honnêtement, je trouve ça un peu insultant. Les gens, écoutez, aujourd'hui, ils peuvent vous parler d'AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, les pour et les contre, les thromboses. Les gens sont au courant. Et puis, si les gens sont capables de s'administrer des tests de grossesse, je vois pas pourquoi ils sont pas capables de s'administrer des tests rapides.
Tout à fait.
Alors, je pense qu'il y a une place pour ces tests-là. C'est sûr qu'il va falloir la définir, la place. Il va falloir instruire les gens sur comment le faire. Mais les gens sont intéressés. Les gens savent qu'il faut s'impliquer pour se sortir de ce trou-là.
Tout à fait. Puis, Dr. Veillette, l'exemple que vous venez de donner, les tests de grossesse, il y a une auditrice Françoise que je salue. Elle dit, Catherine, regarde, on le fait déjà comme diabétique. Tu t'autogères toi-même à la maison. Alors, on serait capable très bien de le faire. Alors, je pense que c'est une partie de la solution, au moins pour recommencer à vivre. Avec la vaccination, je pense qu'on doit aller là. Alors, souhaitons que la santé publique nous donne le go, sans mauvais jeu de mots ce matin.
Bien, c'est important aussi de commencer à parler de ça, avec la population, de sorte que les gens savent c'est quoi cette affaire-là, parce que souvent on entend parler, mais c'est dans le coin. Je pense que ça va être un outil important et puis ça va faire partie. Écoutez, les gens ont appris AstraZeneca, Pfizer, l'importance de deux doses, toutes ces choses-là.
Exact.
Je pense qu'ils devraient apprendre aussi au sujet des tests rapides. Puis j'espère qu'on va pouvoir les utiliser au Québec pour s'assurer que notre déconfinement soit le plus sécur possible.
Oui, voilà. Dr. Veillette, encore un gros merci d'avoir été avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Au revoir. Dr. André Veillette, hein? Très clair. On est chanceux d'avoir autant de bons spécialistes au Québec. Cette disponibilité-là